Vers une étude globale des clivages électoraux et politico-idéologiques. Avant d'aller plus loin, il convient toutefois d'en dire un peu plus sur les sources permettant ce type d'analyse, leurs limites et aussi leurs atouts. Tous les résultats présentés sur les graphiques 14.1, 14.2 que nous venons d'évoquer, ainsi que sur l'ensemble des graphiques analysés dans ce chapitre et les suivants, sont issus d'un projet de recherche collectif reposant sur une exploitation originale et systématique des enquêtes post-électorales menées dans les différents pays au cours des dernières décennies. Ces enquêtes, organisées généralement par des consortiums regroupant des universités et des centres de recherche, parfois en lien avec des médias d'information, ont été conçues afin d'étudier les comportements électoraux. Elles consistent à interroger des échantillons représentatifs de la population au sujet de leur vote et de leur motivation, en général dans les jours qui suivent les élections. Ces enquêtes incluent également des dizaines de questions au sujet des caractéristiques socio-démographiques et économiques individuelles, âge, sexe, lieu d'habitation, profession, secteur d'activité, diplôme, revenus, éléments de patrimoine et d'actifs détenus, pratiques religieuses, origines, etc. Elles constituent la façon la plus directe d'étudier la structure socio-économique des électorats et leur transformation. Cette source compte toutefois plusieurs insuffisances. Tout d'abord, les enquêtes post-électorales sont relativement récentes. En particulier, elles ne permettent pas d'étudier les élections antérieures au second conflit mondial. Nous allons commencer par traiter de façon détaillée du cas des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, où des enquêtes relativement élaborées ont été menées de manière continue depuis la fin des années 1940 et le début des années 1950. Les fichiers ont été bien conservés et permettent d'étudier de façon satisfaisante les transformations de la structure des électorats pour la quasi-totalité des scrutins depuis l'élection présidentielle états-unienne de 1948 et les élections législatives britanniques et françaises de 1955 et 1956. Des enquêtes comparables ont également été menées en Allemagne et en Suède depuis les années 1950, ainsi que dans la plupart des démocraties électorales européennes et non européennes, en particulier en Inde et au Japon, au Canada ou en Australie, depuis les années 1960 ou 1970. Dans les nouvelles démocraties électorales d'Europe de l'Est, il est possible d'étudier l'évolution des clivages électoraux depuis les années 1990 et 2000. Au Brésil, on peut faire de même à partir de la chute de la dictature militaire et du retour des élections à la fin des années 1980. Il en va pareillement en Afrique du Sud, à partir du milieu des années 1990 et de la chute de l'apartheid. On voit donc qu'il est possible, avec cette source, de faire un vaste tour du monde. Toutefois, ces enquêtes ne permettent pas d'étudier les élections du 19e siècle et des premières décennies du 20e siècle, pour lesquelles d'autres méthodes et matériaux devraient être mobilisés. L'autre limite importante de la méthode à base d'enquête est que ces dernières reposent sur des échantillons de taille réduite, généralement autour de 4 000-5 000 personnes interrogées. Cet aspect technique est essentiel, car il implique que cette source ne permet pas d'étudier les variations de faible ampleur d'une élection à l'autre, compte tenu du fait que ces fluctuations sont pour la plupart trop réduites pour être statistiquement significatives. En revanche, les évolutions de long terme sur lesquelles nous allons nous concentrer sont très significatives, comme le montrent les intervalles de confiance indiqués sur le graphique 14.1 qui suit l'évolution des clivages sociaux et du conflit politique en France entre 1955 et 2020. En particulier, le renversement complet du clivage éducatif caractérisant la gauche électorale entre les périodes 1950-1980 et 1990-2020 du vote des moins diplômés au vote des plus diplômés, est extrêmement significatif en France comme dans tous les autres pays. Dans les années 1950-1970, le vote pour les partis de gauche, socialistes, communistes, radicaux, écologistes, était associé aux électeurs ayant les niveaux de diplôme les moins élevés. Dans les années 1990-2010, il est devenu associé aux électeurs les plus diplômés. Les échantillons utilisés pour les enquêtes sont également suffisamment importants pour pouvoir raisonner toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire, par exemple, pour isoler les effets du diplôme en contrôlant ceux des autres attributs individuels qui vont souvent, mais non systématiquement, avec le diplôme. On notera également que ces enquêtes, comme toutes les sources déclaratives, peuvent souffrir de divers biais dans les réponses données par les enquêtés. En particulier, on observe souvent une légère surdéclaration du vote en faveur des partis et coalitions qui ont remporté les élections, ainsi qu'une sous-déclaration des votes pour des mouvements politiques minoritaires et stigmatisés, ou se percevant comme tels. Par exemple, le vote communiste était sous-déclaré dans les enquêtes françaises des années 1950 et 1960, principalement au profit du vote socialiste, avec un total pour les partis de gauche quasi identique au vote observé. Le vote pour le Front National a longtemps été sous-déclaré dans les enquêtes et sondages des années 1990 et 2000 et ne l'est plus guère dans les années 2010. Rien ne permet cependant de penser que ces biais affectent les différentiels de vote entre groupes sociaux et encore moins l'évolution de ces différentiels dans le temps qui se répètent enquête après enquête dans les différents pays et qui, en ce sens, paraissent bien établis. Signalons aussi que les graphiques 14.1-14.2 que nous évoquons depuis tout à l'heure se focalisent sur un indicateur particulier, à savoir la différence de vote entre les 10% du haut et les 90% du bas, mais que les évolutions seraient similaires si l'on mesurait les clivages avec d'autres indicateurs, par exemple en comparant les 50% des électeurs les plus diplômés et les 50% les moins diplômés, et ainsi de suite pour les revenus et les patrimoines. Ou encore, si l'on examinait l'écart de vote entre les diplômés du supérieur et les non-diplômés du supérieur, ou entre les diplômés du secondaire et les non-diplômés du secondaire. Autrement dit, malgré leurs limitations, les enquêtes post-électorales permettent d'établir la robustesse des résultats résumés sur les graphiques 14.1-14.2. Nous y reviendrons plus loin en examinant de façon détaillée les résultats obtenus pour la France, puis pour les États-Unis, le Royaume-Uni et les autres pays. Ces enquêtes et ces résultats permettent également de constater à quel point les différentes dimensions de la stratification sociale sont corrélées les unes aux autres, sans pour autant que cette corrélation soit systématique. Par exemple, il existe toujours des personnes disposant d'un diplôme élevé et d'un patrimoine faible, et d'autres qui ont un diplôme faible et un patrimoine élevé. L'espace des classes sociales est un espace multidimensionnel. Il comporte certes une diagonale centrale, comprenant des groupes socialement défavorisés ou socialement favorisés, suivant toutes les dimensions en même temps, dans la mesure où les attributs individuels en question peuvent s'ordonner verticalement, ce qui est loin d'être toujours le cas. Mais il inclut également des situations plus complexes, résultant de trajectoires multiples et variées, et impliquant que les individus occupent des positions différentes suivant les axes considérés, souvent légèrement différentes et parfois plus nettement décalées. Mais il est patent que ces différences de position, auxquelles s'ajoutent des différences de trajectoire, de croyances et de représentation pour des positions sociales données, dessinent dans toutes les sociétés un espace sociopolitique complexe et multidimensionnel. De fait, si les différentes dimensions considérées ici, diplôme, revenu, patrimoine, étaient parfaitement corrélées, alors les trois courbes auraient été parfaitement confondues. D'après les enquêtes post-électorales, la corrélation entre ces trois dimensions semble être restée approximativement au même niveau des années 1950 aux années 2010, avec peut-être même une légère progression en fin de période, autant que cette source imparfaite permette d'en juger. Concrètement, les coefficients de corrélation entre diplôme, revenu et patrimoine apparaissent relativement stables dans les enquêtes post-électorales françaises, états-uniennes et britanniques au cours de la période 1948-2017, avec des coefficients autour de 0,3-0,4 pour le diplôme et le revenu, 0,2-0,3 pour le revenu et le patrimoine, et 0,1-0,2 pour le diplôme et le patrimoine, un coefficient égal à 0 indique une absence de corrélation et un coefficient égal à 1, une corrélation parfaite. Autrement dit, ces évolutions ne s'expliquent pas parce que les hiérarchies du diplôme, du revenu et du patrimoine seraient subitement devenues moins corrélées que par le passé. Le changement important qui a eu lieu est donc avant tout de nature politico-idéologique et non pas socio-économique. Il concerne en premier lieu la capacité des organisations et coalitions politiques et électorales en présence à unir ou au contraire à opposer ces différentes dimensions de l'inégalité sociale. Internationaliser l'étude des clivages ethno-raciaux et du social-nativisme. Précisons enfin que les résultats présentés ici s'inscrivent dans la lignée de nombreux travaux de sciences politiques. En particulier, les politistes Lipset et Rochran ont proposé dès les années 1960 d'analyser les systèmes de partis et leur évolution au travers d'une vision multidimensionnelle des clivages électoraux. Leur classification reposait sur l'idée selon laquelle les sociétés modernes étaient marquées par deux grandes révolutions. La révolution nationale, au travers de la construction d'un pouvoir étatique centralisé et de l'État-nation, et la révolution industrielle, qui avait donné lieu à quatre grands clivages politiques, avec une importance variable suivant les pays. Le clivage entre le centre et la périphérie, les régions centrales ou proches de la capitale et les régions se percevant comme périphériques, le clivage entre l'État centralisé et les églises, le clivage entre les secteurs agricoles et industriels. Et enfin, le clivage autour de la propriété des moyens de production, opposant les travailleurs aux employeurs et aux propriétaires. Lipset et Rochran ont notamment mobilisé ces notions pour rendre compte du premier système partisan opposant les Tories, conservateurs, et les Whigs, libéraux, au Royaume-Uni, autour de 1750, caractérisé par une opposition entre élites terriennes et rurales, attachées à leur pouvoir local, et élites urbaines et commerciales, s'appuyant davantage sur l'État central. Tout ceci se déroulait à une époque où seuls quelques pourcents de la population avaient le droit de vote, si bien que le conflit politique et électoral ne pouvait être autre chose qu'un conflit entre élites. La montée en puissance du suffrage universel et du clivage industriel conduisit au remplacement du parti Whig, devenu parti libéral en 1859, par le parti travailliste entre 1900 et 1950. Lipset et Rochran insistent également sur l'importance de la question religieuse et scolaire dans la constitution des différents systèmes de partis européens au cours du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, avec des affrontements souvent violents entre les tenants d'un État laïque et les défenseurs d'un rôle maintenu pour les institutions ecclésiastiques, en particulier en France, en Italie et en Espagne, et avec, dans la plupart des pays, un impact durable sur les structures partidaires, y compris parfois avec des partis constitués pour promouvoir séparément les sensibilités confessionnelles protestantes et catholiques, comme aux Pays-Bas et en Allemagne. Les clivages étudiés par Lipset et Rochran continuent de jouer un rôle important et ont laissé des traces significatives jusqu'à nos jours. Par comparaison à cette grille de lecture, l'approche développée ici a deux particularités essentielles. D'une part, le recul et les sources dont nous disposons aujourd'hui permettent d'identifier des transformations profondes dans la structure des clivages électoraux et sociopolitiques depuis la période des années 1950-1960. Pour repérer ces mutations, je propose de classer les électeurs en fonction de leur position dans la hiérarchie des diplômes, des revenus et des patrimoines, et d'exploiter de façon systématique l'ensemble des enquêtes post-électorales disponibles depuis 1945. Certes, les identités et les classes sociales, dans leurs manifestations politiques et historiques concrètes, ne se définissent jamais directement en termes de déciles d'éducation, de revenus ou de propriété, ou tout du moins, pas de façon aussi crue et explicite. D'autant plus que les visions du monde et les systèmes de croyances sur les enjeux politiques décisifs ne sont que partiellement reliés à ces attributs individuels. Mais ce langage, de la même manière que pour la mesure des inégalités, a le mérite de pouvoir comparer la structure des clivages électoraux sur longue période et au sein de sociétés très éloignées les unes des autres. Autrement dit, les déciles de diplômes, de revenus et de patrimoine permettent de faire des comparaisons historiques précises, ce que les professions permettent difficilement, tant les classifications professionnelles évoluent dans le temps. En particulier, les notions de classe ouvrière ou de working class, souvent utilisées pour étudier l'évolution des clivages politiques à partir des enquêtes post-électorales, n'ont clairement pas le même sens dans des sociétés où la part de l'emploi industriel dépasse 40% et dans des sociétés où cette part est inférieure à 10%. Les déciles de diplômes, de revenus et de patrimoine ont moins de sens social et politique dans l'instant présent que les grilles de profession utilisées par la société considérée, mais ils permettent de comparer des sociétés qui seraient autrement incomparables. Idéalement, les deux formes de langage devraient être mobilisées de concert. D'autre part, une limitation du cadre proposé par Lipset et Rocan est qu'il ignore complètement la question des clivages ethno-raciaux. Cela peut sembler paradoxal dans la mesure où ces travaux ont été publiés dans les années 1960, en pleine bataille des droits civiques aux États-Unis. Or, cette dimension du conflit politique n'a pas disparu, contrairement peut-être à ce que l'on imaginait à l'époque. Elle s'est en réalité renforcée aussi bien outre-Atlantique, où le facteur racial est souvent évoqué pour expliquer le passage graduel d'une partie des classes populaires blanches du vote démocrate vers le vote républicain depuis le virage des années 1960 et tout au long du dernier demi-siècle, qu'en Europe, où les conflits autour des questions identitaires et migratoires ont pris une importance nouvelle avec la montée en puissance des partis anti-immigrés depuis les années 1980-1990. Trop souvent, ces questions sont étudiées séparément sur les deux continents. Les travaux consacrés au système de partis aux États-Unis tendent à s'intéresser exclusivement aux évolutions états-uniennes, ce qui est malheureusement devenu une attitude assez générale dans ce pays. Les recherches portant sur l'Europe ont tendance à faire de même, sans doute en partie car le système partisan états-unien paraît radicalement différent et indéchiffrable, ou tout du moins difficilement comparable. En particulier, les observateurs européens ne cessent de s'étonner que le parti de l'esclavage au XIXe siècle ait pu graduellement devenir celui du New Deal et de Roosevelt au XXe siècle, puis celui d'Obama au début du XXIe siècle, et s'inquiètent peut-être de la portée d'une telle comparaison et de ses potentielles implications. Nous verrons qu'une analyse comparative du rôle joué par les clivages ethno-raciaux en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs démocraties électorales non occidentales, permet pourtant de mieux comprendre les évolutions en cours de la structure des clivages politiques dans les deux pays, ainsi que la diversité des possibles trajectoires à venir. En particulier, une telle démarche permet d'analyser les risques d'une dérive sociale nativiste dans les différents pays et d'étudier les conditions sous lesquelles les clivages socio-économiques sont susceptibles de retrouver leur ascendant sur les conflits ethno-raciaux. Renouvellement des partis politiques, chute de la participation électorale. Revenons tout d'abord au cas de la France et à la transformation de la structure des électorats observée dans ce pays depuis le second conflit mondial. Précisons que nous allons nous intéresser à la fois aux élections législatives et présidentielles. Des élections législatives ont été conduites approximativement tous les 5 ans depuis 1871 en France, d'abord sous le régime du suffrage masculin, puis du suffrage universel masculin et féminin à partir de 1944. Par comparaison aux États-Unis et au Royaume-Uni, la France se caractérise depuis le XIXe siècle par un très grand nombre de partis politiques et par un renouvellement quasi permanent des structures partisanes. Aux États-Unis, le paysage politique se structure depuis le milieu du XIXe siècle autour du bipartisme démocrate-républicain, avec toutefois de multiples tendances à l'intérieur de chaque parti, des systèmes de primaires généralisés permettant de départager les candidats et des transformations profondes et permanentes des orientations idéologiques des deux blocs. Au Royaume-Uni, le bipartisme libéraux-conservateur, en vigueur au XIXe siècle et au début du XXe siècle, a été remplacé depuis 1945 par un bipartisme travailliste-conservateur, avec là aussi de multiples complications sur lesquelles nous reviendrons et de profonds renouvellements idéologiques et programmatiques. En pratique, le contraste entre le multipartisme français et le bipartisme anglo-saxon relève donc souvent davantage d'une différence institutionnelle, davantage que d'une diversité idéologique supposément plus étendue en France. Cette différence institutionnelle s'explique classiquement par les systèmes électoraux, dont on peut toutefois considérer qu'ils reflètent eux-mêmes différentes conceptions du pluralisme politique et de sa structuration partisane. Le système anglo-états-unien, scrutin uninominal à un tour, pousse à la concentration des voix sur les deux partis placés en tête, alors que le système français, scrutin uninominal à 2 tours, permet de faire émerger et perdurer un plus grand nombre de partis. Dans le cadre de cette enquête, dont le premier objectif est de replacer l'évolution des clivages électoraux et politico-idéologiques dans une perspective comparative et historique de long terme, je vais commencer par me concentrer sur la répartition des votes entre deux grands groupes de partis présents aux élections législatives françaises tout au long de la période 1945-2017, que pour simplifier, je propose d'appeler la gauche électorale et la droite électorale. Au cours de cette période, la gauche électorale inclut principalement en France le Parti socialiste, le Parti communiste, les radicaux, les écologistes et les autres petits partis classés au centre-gauche, à gauche ou à l'extrême-gauche. Voir graphique 14.4. De même, la droite électorale inclut notamment les partis gaullistes et l'ensemble des partis classés au centre-droit, à droite et à l'extrême-droite. Voir graphique 14.5. Ces regroupements se justifient essentiellement par l'objectif de comparaison avec la structure des votes observée dans le cadre des bipartismes démocrate-républicains et travailliste-conservateurs en vigueur aux États-Unis et au Royaume-Uni. J'ai simplement classé les différents partis en fonction de la façon dont les électeurs les placent sur une échelle gauche-droite dans les enquêtes post-électorales, ce qui paraît dans un premier temps la façon la moins arbitraire de procéder pour ordonner l'électorat en deux moitiés approximativement égales. Les résultats obtenus sont par ailleurs conformes à la façon dont les partis se décrivent eux-mêmes. Les seuls partis exclus de cette classification sont ceux que les électeurs refusent de classer sur une échelle gauche-droite ou qui font l'objet d'un classement incohérent. Il s'agit en pratique de petits partis régionalistes ou centrés sur la défense de causes spécifiques, comme la chasse, regroupant toujours moins de 4% des voix aux législatives, alors que les scores obtenus par le bloc de gauche, socialistes, communistes, radicaux, écologistes et autres partis de centre-gauche et extrême-gauche, et les partis de droite, tous partis de centre-droit, droite et extrême-droite confondus, ont oscillé entre 40% et 58% des voix au premier tour des élections législatives françaises au cours de la période 1945-2017. Voir graphique 14.3. Il convient toutefois d'insister sur le caractère largement artificiel de ces catégorisations et sur la très grande diversité d'opinions et de sensibilités qui a toujours existé au sein de chacun de ces deux groupes de partis, de même d'ailleurs qu'au sein des partis anglo-saxons. De fait, la structure du conflit politico-idéologique est en règle générale fortement multidimensionnelle. Les désaccords portent notamment sur la question de la propriété, ce qui comprend en particulier la politique fiscale et la réduction des inégalités, et sur la question de la frontière, ce qui inclut par exemple la politique migratoire. Il arrive certes que l'une des dimensions prenne une importance primordiale pour structurer la compétition électorale et contribue par là même à déterminer comment les électeurs perçoivent le positionnement relatif des forces en présence. Mais il s'agit généralement d'un équilibre précaire, instable et provisoire, car la réalité sous-jacente du conflit politico-idéologique recouvre toujours des dimensions multiples et imparfaitement corrélées. C'est notamment le cas en France à la fin des années 2010. Comme nous le verrons plus loin, nous sommes clairement dans une période où l'axe principal du conflit électoral et politique est en cours de redéfinition, comme en témoigne d'ailleurs le violent rejet dont font l'objet les clivages anciens et en particulier les termes de gauche et de droite qui sont encore plus durement repoussés qu'à l'accoutumée, ce qui est le signe que leur signification est en cours de redéfinition. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il est utile de commencer par étudier l'évolution de la structure des clivages entre les deux blocs gauche-droite depuis les années 1950, en comparaison avec les blocs démocrate-républicain et travailliste-conservateur des pays anglo-saxons. De façon générale, il est également important de préciser que ces dénominations de gauche et de droite ont toujours été le lieu d'intenses conflits politico-linguistiques propres à chaque société et à chaque époque. Ces mots sont alternativement utilisés par les différents locuteurs pour définir leur identité de façon positive, ou au contraire pour disqualifier celle des autres de façon péjorative, ou parfois aussi pour les récuser entièrement et annoncer leur disparition. Ce qui n'empêche pas le conflit politique et électoral de se reconfigurer suivant de nouveaux axes de désaccord d'une façon ou d'une autre. Mon projet ici n'est pas de trancher ces débats terminologiques, d'instituer la police du langage ou de définir la nature profonde de la gauche véritable, de la droite authentique. Cela aurait d'autant moins de sens que ces notions n'ont de toute évidence pas une signification éternelle et absolue. Il s'agit de constructions socio-historiques permettant de structurer et d'organiser les conflits politico-idéologiques et la compétition électorale dans un contexte historique donné. Utilisé pour la première fois lors de la Révolution française pour désigner les groupes politiques situés dans les partis gauche et droite des hémicycles parlementaires, en fonction notamment de la position des uns et des autres sur la question du régime monarchique, les notions de gauche et de droite ont depuis lors suscité, dans tous les pays, des luttes incessantes et des redéfinitions permanentes, en particulier dans le cadre de stratégies politiques visant à annoncer le dépassement des conflits du passé et l'avènement de nouveaux clivages. Dans un premier temps, mon objectif est simplement d'étudier l'évolution de la gauche et de la droite au sens électoral, c'est-à-dire telles qu'elles se sont incarnées dans des élections particulières et des partis spécifiques depuis 1945, et de comparer les structures des électorats dans le temps et entre pays. Je vais également utiliser les comportements électoraux observés lors des seconds tours gauche-droite qui se sont déroulés dans le cadre des élections présidentielles françaises entre 1965 et 2012. Voir graphique 14.6. Ces confrontations obligent les uns et les autres à se positionner face à un choix binaire, ce qui est à la fois réducteur et expressif. En l'occurrence, les résultats obtenus concernant la structure des électorats et leur évolution sont identiques à ceux observés pour les élections législatives, avec une alternance entre une majorité en faveur de la gauche et une majorité en faveur de la droite, et des écarts relativement faibles entre les deux bords. Voici les scores obtenus lors des seconds tours gauche-droite des présidentielles françaises. 1965. De Gaulle, 55%. Mitterrand, 45%. 1974, Giscard, 51%, Mitterrand, 49%. 1981, Mitterrand, 52%, Giscard, 48%. 1988, Mitterrand, 54%, Chirac, 46%. 1995, Chirac, 53%, Jospin, 47%. 2007, Sarkozy, 53%, Ségolène Royal, 47%. 2012, Hollande, 52%, Sarkozy, 48%. Nous excluons ici les autres second tours, opposant la droite, le centre et l'extrême droite, qui ont donné des écarts beaucoup plus larges entre les candidats. Les élections législatives ont l'avantage de porter sur des périodes plus longues et de donner une expression plus exacte de la pluralité politique et du multipartisme qui caractérise la vie politique française. Précisons enfin que le renouvellement important des partis, qui caractérise le paysage politique français, en particulier en fin de période, n'a pas empêché la baisse de la participation électorale, bien au contraire. En ce qui concerne les élections présidentielles, la baisse de la participation est restée limitée. La participation a avoisiné les 80-85% entre 1965 et 2012, et elle est tombée à 75% en 2017. La chute a été beaucoup plus forte au niveau des élections législatives, où la participation était d'environ 75-80% dans la France des années 1950 aux années 1980, avant de s'effondrer au cours des dernières décennies, passant à 60-65% dans les années 2000 et à moins de 50% en 2017. Voir graphique 14.7. On remarquera que la participation aux élections générales au Royaume-Uni se situait également autour de 75-80% des années 1950 aux années 1980, avant de chuter très rapidement au cours des années 1990, environ 60% au début des années 2000, puis de remonter dans les années 2010, près de 70% en 2017. Aux États-Unis, la participation électorale a toujours été relativement faible, si bien que la baisse a été moins marquée. Elle se situait autour de 60-65% dans les années 1950 et 1960, et elle a généralement fluctué autour de 50-55% des années 1970 aux années 2010.